Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition du 10 décembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, laisse-nous savoir, qu'est-ce qui a retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Pour moi, définitivement, le chiffre d'emploi au Canada avec une création de 54 000 emplois, qu'est-ce que ça a eu comme résultat? On espérait peut-être une dernière petite baisse de taux en terminant l'année. Oubliez ça, ça n'arrivera pas aujourd'hui. On s'attend tous en général que la Banque du Canada va demeurer au neutre. Donc, va maintenir son taux directeur à 2,25. Donc, chiffre d'emploi, création, 54 000 emplois, ça l'a fait baisser le taux de chômage de 0,4% en un seul mois. Ça, honnêtement, c'est gigantesque comme baisse en un mois. Habituellement, le taux de chômage, là, ça bouge à coup de 0,1, des fois 0,2. Donc, on est à 6,5 de chômage. C'est surtout les jeunes de 15 à 24 ans qui ont eu 50 000 créations d'emplois. Et là, bon, le chiffre total, 54 000 créations. Les emplois à temps partiel, 63 000. Ça veut donc dire que les emplois à temps complet sont à la baisse. Donc, le chiffre d'emploi, à première vue, il est très, très bon. T'sais, si on lève le capot, on fouille un peu dans le moteur, peut-être pas aussi solide que prévu. Ça l'a eu comme impact aussi au niveau de la devise. Donc, étant donné qu'au Canada, on s'attend à ce que les taux ne bougent pas. Mais aux États-Unis, par contre, aujourd'hui, la Réserve fédérale, c'est à peu près largement attendu qu'ils vont baisser d'un quart de point. Notre dollar canadien s'est apprécié de... on est passé de 71,7 à 72,2, donc 1,5%. Ça a un impact inverse sur le prix des actions américaines. Les indices boursiers cette semaine sont relativement flat. Le S&P 500 en hausse de 0,2. Par contre, la devise est venue en gruger 0,5. Donc, une légère baisse de ce côté-là. Ça va quand même très bien. Le marché canadien en hausse de 0,6. On est flat de mois à jour. 26% depuis le début de l'année. 16% depuis le début de l'année sur le côté américain sur le S&P 500. Le Nasdaq en hausse de 22%. Là, très fortement tiré par les titres de technologie. Et l'indice MSCI Europe-Australie-Asie. En hausse de 20,8. Donc, petite baisse. Là. Cet indice-là, depuis quelques semaines, va un petit peu moins bien. Baisse de 0,7% dans la dernière semaine. 1% durant le mois de décembre. Mais quand même, année à jour, là, très bonne performance. Les taux d'intérêt ont quand même fortement bondi là, sur le chiffre d'emploi. Oui, la Banque du Canada va rester stable au niveau du taux directeur à un jour. Mais les obligations 10 ans sont passés de 3,22 à 3,47, donc une hausse de 0,25% sur les obligations de 10 ans, c'est quand même assez important. Aux États-Unis, on s'attend tous à une baisse d'un quart, mais on s'attend aussi à ce qu'ils disent qu'ils vont peut-être moins baisser les taux l'année prochaine. Donc, les obligations de 10 ans ont augmenté un petit peu à 4,18 versus 4,08. Donc, ça fait pas mal de tours là, pour ce qui est des données financières du marché cette semaine.
Ben merci beaucoup, Martin. L'année 2025 tire à sa fin. C'est un de nos derniers balados. On aime bien regarder, avoir l'œil sur qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et je pense qu'aujourd'hui, on va toucher à un sujet qui intéresse beaucoup nos clients. Les prévisions économiques qu'on avait eues au début de l'année, au début de 2025, et ce qui s'est réellement passé cette année. C'est toujours fascinant de comparer les attentes des économistes avec la réalité, surtout après une année qui était quand même très mouvementée. On l'oublie, mais ça a été une année mouvementée. Donc, peut-être pour commencer, Martin, peux-tu mettre la table et nous donner quelles étaient les grandes prévisions en janvier 2025?
Ouais, comme mon ancien associé Régent, qu'on salue chaleureusement, disait, prévoir le passé, c'est assez facile. C'est le futur qui est un peu plus compliqué. Donc, la croissance économique, en début d'année, on s'attendait quand même à une croissance relativement modérée de 1,5 à 2% en Amérique du Nord. On s'attendait à un ralentissement en Europe. Là, il n'y avait pas beaucoup de gens là, qui en Europe avaient vraiment une opinion très, très favorable au tout début de l'année. Je vous rappelle là, que on parlait d'une hausse de plus de 20% là, sur l'indice Europe-Australie-Asie. Au niveau de l'inflation, on s'attendait à une baisse progressive de l'inflation pour s'établir autour de 2,5 à la fin de l'année. Donc, on se souvient, là, 2022, un épisode de très forte inflation. Et là, on revient à l'intérieur, proche de la cible des banques centrales, autour de 2,5. Ça, c'était les prévisions. Les taux d'intérêt, une baisse graduelle des taux directeurs. La Fed et la Banque du Canada là, devaient amorcer un cycle de de détente monétaire. Donc, on en parle, là, on est là-dedans. Les marchés boursiers, ben, les prévisions étaient quand même positives. On parlait en général là, de rendement de 6 à 8 % pour les grands indices. Là, tu sais, si on prend la moyenne des différents prévisionnistes, on parlait de 6 à 8 %. On parlait beaucoup du secteur de la santé qui est relativement défensif. Les technologies liées à l'IA, ça, on l'a vu, c'est sûr. Puis les infrastructures vertes étaient quand même des secteurs dont on parlait en début d'année.
Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2025?
Surprise! L'économie américaine a évidemment été beaucoup plus résiliente que prévu. La croissance a été presque 3%. L'Europe a connu quand même une certaine stagnation, mais les anticipations étaient tellement négatives face à l'Europe que finalement les marchés reflétaient déjà un certain niveau de positif, de négativisme. Puis la performance, finalement, elle était meilleure. L'inflation, ça, c'était peut-être la donnée décevante. Là, on s'attendait quand même à une baisse assez, tu sais, quasiment facile de l'inflation. Ça n'a pas été le cas. On est comme bloqué à 3 %. C'est pas terrible, là, 3 %, là. On vise 2, on est à 3. Par contre, la cible, c'est 2, tu sais. Donc, le travail n'est pas terminé. Le travail de la Réserve fédérale n'est pas terminé tant qu'ils ne sont pas à 2. Donc, les baisses de taux, pour en avoir plus, va falloir que l'inflation diminue davantage. Donc, les taux d'intérêt, qu'est-ce que la Réserve fédérale a fait? Bien, à mesure que l'inflation ne se matérialisait pas, les menaces de tarifs aussi sont venues jouer là-dedans. Donc, la Réserve fédérale est demeurée au neutre pendant une grande partie de l'année avant de finalement entamer son cycle de baisse de taux. Donc, les baisses sont venues beaucoup plus tard que prévu dans l'année. Les marchés boursiers, bon, surperformés de loin, là, surtout le Nasdaq, grâce à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. Semi-conducteurs, là, on pense à Nvidia, entre autres. S&P 500, là, on parlait de rendement là, qui avoisine les 16 % année à jour, bien au-delà des attentes. Le secteur de la santé a été solide quand même, et la vraie vedette, vraiment, c'est la technologie, l'énergie. Et même aux États-Unis, là, au Canada, moins là, les titres d'énergie renouvelable ont moins bien fait, mais il y a certains titres d'énergie renouvelable. Puis on pense beaucoup au nucléaire aux États-Unis. Là, c'est un terme qui a été très, très puissant du côté américain. Donc, qui a bien fait durant l'année.
Puis je pense qu'un des gros défis aussi de prévoir en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on ne sait pas où on va arriver, ça va être quoi l'évolution en réalité, et ça évolue extrêmement rapidement aussi. Donc, c'est intéressant de voir à quel point les prévisions peuvent être déjouées par des événements imprévus. On a vu hein, le mois d'avril. Peut-être tu peux en parler un peu. Donc, quels ont été les grands facteurs qui ont changé la donne?
Ben, les grands facteurs, évidemment, la géopolitique, là, il y a eu les tensions au Moyen-Orient il y a toujours des tensions au Moyen-Orient, là, mais je pense que là, c'était un autre niveau, là. Donc, ça a eu un impact sur le prix de l'énergie, entre autres. Puis honnêtement, je vous dirais même que je suis plutôt surpris que l'impact a été beaucoup moins fort qu'on aurait pensé, là. T'sais, si on parle d'une guerre comme il y a eu lieu au Moyen-Orient, le pétrole à 64 piastres le baril, là, ça me paraît très, très raisonnable dans le contexte. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le prix du baril, autant qu'on aurait pu penser. L'IA générative, donc tout le monde connaît ChatGPT maintenant. Il y a plein d'autres moteurs là, similaires, là, Perplexity, Gemini de Google, ainsi de suite. L'adoption a été quand même assez rapide. Et puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dépenses en investissement, en infrastructure dans ce secteur-là. Je lisais ce matin, là, les investisseurs indiciels, souvent, vont se bâtir un portefeuille bon, ils vont avoir un indice du S&P 500, puis un indice MSCI World, mettons. Donc, le MSCI World qui regroupe la planète au complet. Ben, gardez en tête que 70 % du MSCI World, c'est le S&P 500. Donc, on est-tu aussi diversifié qu'on le pense? Mais peut-être pas autant que ça, là. Il y a beaucoup, beaucoup de concentration, dans les méga-titres américains, actuellement.
Exactement, puis je trouve qu'on en parle de plus en plus que ces fonds négociés en bourse peuvent être quand même assez concentrés. Peut-être plus les gestionnaires actifs qui en parlent, mais ça vaut la peine de le regarder.
Ouais, un autre graphique, je suis tombé là-dessus. Donc, évidemment, sur un podcast, on ne va pas trop faire de visuel. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais, tu sais, on sait que le Nasdaq a très bien fait. Le Nasdaq, il regroupe beaucoup les titres de technologie. Donc, quand on regarde la rentabilité du Nasdaq en général, bon, on parlait d'une performance dans les 20 % là, de 22 % année à jour. Là, les données sont au 31 octobre. Là, il manque le mois de novembre, là, mais parmi l'indice Nasdaq, les compagnies qui n'ont aucun revenu, donc là, on ne parle pas de profit, là, on parle, ils n'ont même pas de vente, ils n'ont pas commencé à avoir des clients encore. Ces entreprises-là ont une performance positive de 41 %. Est-ce que c'est le genre de compagnie qu'on veut détenir dans notre portefeuille? En tout cas, pas moi. Généralement, on veut des entreprises qui sont rentables, qui ont un modèle d'affaires stable, ainsi de suite. Les entreprises du Mag 7 là, qu'on connaît, les Microsoft, Amazon et Nvidia de ce monde, 24 % à la hausse. Les entreprises du Nasdaq qui sont pas profitables, qui déclarent des pertes année après année, rendement de 21 %. C'est pas normal. Là. Le S&P 493, c'est quoi ça? C'est le S&P 500 moins les 7 magnifiques. Ah, 7 % de rendement, c'est quand même assez modeste. Pourtant, si on veut un portefeuille solide, diversifié, c'est peut-être plus là-dedans qu'on veut investir dans des entreprises stables, mais ces entreprises-là, cette année, n'ont pas du tout été récompensées. On parle vraiment d'une performance boursière pour des entreprises de piètre qualité, puis c'est les entreprises, entre guillemets, de mauvaise qualité qui ont très, très bien performé.
Bien, puis on ne pouvait pas le savoir, ça. Puis je pense qu'il y a deux autres items hein, qui ont surpris puis qui ont peut-être changé la donne. Un, c'est le mois d'avril, le fait que Trump il a reculé devant les tarifs puis il a dit OK, finalement, puis ça ne l'a pas été aussi pire. Je pense que ça, c'est la chose qui a changé la donne pour l'année.
On se souvient d'une baisse quand même de 20 % du S&P 500 là, suite à cette annonce-là. C'est pas rien. Là, donc, les gens, fin avril, n'étaient pas super optimistes là, sur leur portefeuille.
Non, puis l'autre chose, puis moi, ça me surprend encore. Hein, on est allé magasiner en fin de semaine, c'est la période de Noël. La consommation, malgré les taux qui sont relativement élevés, surtout aux États-Unis, les ménages continuent à dépenser et le marché de l'emploi, puis tu l'as mentionné au début, est aussi assez robuste en même temps.
Yeah.
Donc ça là, c'était pas ça qui était nécessairement prévu. Puis je sais qu'en début d'année, on disait « Ah, attendez-vous pas à des rendements spectaculaires. Ouais. »
Après deux excellentes années en 2023-24, ben 2025 s'avère encore une fois une très, très bonne année. On est le 10 décembre, donc espérons que ce qu'on dit va bien vieillir pour les 20 prochains jours et finir l'année. Mais ça devrait, là.
Ben, vite.
Comme ça dans l'année.
Le concept, Martin, on ferme le breaker.
Ouais. Moi, c'est ça. Si on pouvait juste éteindre le breaker de la bourse, fermer l'année, on fait les deux, on prend 3 semaines de vacances. Et les rendements sont très bons année à jour, là. Ça va bien.
Peut-être. On a touché un peu là-dessus, mais pour nos auditeurs, quelles sont les leçons tirées de cette comparaison entre prévision et réalité?
Ouais, et tout le monde est super brillant dans le marché. Hein? Donc, quand on regarde les prévisions des grandes firmes de courtage américaines, là, on parle des Barclays, RBC, Goldman, JP Morgan, Oppenheimer, Deutsche Bank, Morgan Stanley. Là, ça, c'est la crème des institutions financières mondiales. On avait BCI Research, qui est une firme là, super reconnue. Peter Berzin, là, qui est un des analystes là, les plus reconnus, lui prévoyait que le S&P terminerait l'année 2025 entre 4002 et 4500. On est à 6008. Là. On s'entend qu'on est dans le champ, pas à peu près. Il y avait des plus pessimistes, là, RBC, Barclays, qui étaient autour de 6000. Ben, 6000, c'est quand même comme 15 % plus bas que ce qu'on est présentement. Il y avait ensuite le core, là, Goldman, JP Morgan, plein de firmes là, qui étaient entre 6002 et 6005. Donc, tu sais, ça, c'est pas pire proche de la réalité. Puis là, les plus optimistes, Oppenheimer, 7100, Morgan Stanley, 7400, Deutsche Bank, 7000. Tu sais, on est donc, finalement, l'S&P 500 s'est terminé plus proche des optimistes. Mais qui avait le micro en début d'année, puis durant toute la première moitié de l'année, c'est BCA Research qui avait le micro, parce que l'attrait du pessimiste est toujours, les gens veulent qu'on les sauve, tu sais. Puis le pessimiste, il a toujours l'impression de vouloir nous aider, puis de nous sauver, puis de
c'est le héros. Ben oui.
C'est le héros.
Ben oui.
En réalité, là, on n'en a aucune idée qu'est-ce qui va arriver dans le marché. Donc, la morale de l'histoire, faites attention à qui on écoute, parce que c'est tout du monde brillant, là. Tu sais, je peux pas dire, c'est pas un imbécile, là, Peter Barrison. Et l'argumentaire qu'il faisait est solide et il tient la route encore aujourd'hui. Par contre, ben, il y a toutes sortes d'événements qui se sont produits qui fait que son argumentaire ne s'est pas avéré. Donc, l'argumentaire fait toujours du sens, mais on ne sait quand même pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, notre grand sage Jean-René nous dit, restez donc collés sur vos cibles. Mm-hmm. S'il n'y a pas d'événement important dans votre vie personnelle qui affecte vos objectifs à vous, il n'y a pas de raison de bouger votre portefeuille de façon significative. On peut-tu tasser 2, 3, 4 % peut-être, mais de faire des gestes brusques, c'est à peu près jamais une bonne idée.
Donc, on conclut. Les prévisions sont utiles pour se préparer, mais il faut rester flexible.
Ouais.
Diversifier son portefeuille est essentiel et on l'a vraiment appris cette année parce qu'il y a toujours des surprises. Et le troisième, c'est suivre les tendances structurelles quand même, comme l'IA, transition énergétique, peut être plus payant que de miser sur des scénarios macroéconomiques.
Ouais.
On le sait pas, on reste investi, on laisse passer la tempête et on vérifie nos billets à nous. Hein,
ouais.
Parce que personnellement, parmi mes amis, mes connaissances, les clients, on a peur pour plusieurs raisons. Ça peut être notre enfance, ça peut être qu'est-ce qu'on vit maintenant, ça peut être notre santé. Alors, il faut vraiment venir faire un examen personnel et dire, OK, pourquoi j'ai peur maintenant et qu'est-ce que le passé m'a montré et nous appeler.
Ouais, pensez pas que les biais cognitifs, c'est juste pour les autres. Là. On est tous affligés de ça, d'avoir des biais cognitifs. Si on en est conscient, c'est déjà un premier pas là, vers la guérison, si on veut.
Oui, donc cette année, on a appris, encore une fois, la même chose qu'on apprend à tous les années. On ne peut pas se préparer en réalité. Il faut juste rester bien investi, bien diversifié. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Si vous avez des questions sur vos placements ou vous souhaitez ajuster votre stratégie pour 2027 ou vous avez le goût de faire quelque chose 2026, je devrais dire, faites-nous signe. On est là. On est là pour en discuter. Contactez-nous. Laurie, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes là pour vous aider. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.